Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 7ème épisode de Torréfaction. Café toujours en vacances, mais heureusement pour m'épauler cette fois-ci, j'ai fait appel à un des modérateurs du site, Scully FM alias Franck. Bonsoir Franck.
Salut Vasque.
Enfin je dis bonsoir, mais en fait vous nous écouterez le matin, donc c'est idiot, mais ce n'est pas grave. Il est tard, on va lancer tout de suite ce 7ème épisode et on va faire un gros point, mais vu qu'on n'en a pas du tout parlé dans les actus sur le site, un gros point sur l'E3. C'est justement pour ça que t'es venu nous voir, puisque t'as suivi ça d'assez près visiblement. Est-ce que c'était déjà de base, enfin moi j'ai absolument pas suivi, je crois que j'ai vu la conf Ubi, je crois que c'est la seule que j'ai matée, et la fin de la conf PC qui avait l'air assez triste. Déjà de base, un bon E3, un E3 bof, c'est quoi le constat?
Écoute, je crois que t'as résumé triste.
Triste, c'est vrai, vraiment?
Ouais, c'était un peu nul. On l'a vu sur le forum aussi, c'est l'année dernière, il y avait pas mal de réactions de gens qui disaient « Ah, oh, super génial !» Et cette année, on a posté les trailers et...
Pas de réaction.
Pas grand chose.
Pas une conférence qui a surnagé au-dessus des autres comme chaque année.
Écoute, j'ai tendance à dire que Ubi a été au-dessus des autres comme chaque année, mais là je vais me faire taper par les fans de Nintendo qui se sont excités avec un fade-in sur un 4 pour annoncer Metroid Prime 4, tu vois.
D'accord.
15 secondes de noir, un 4 et voilà.
Comme quoi il en faut pas beaucoup pour stimuler les fans, hein.
Ouais, non, sinon Ubisoft sympa.
Qu'est-ce que tu retiendrais toi t'es plutôt joueur PC, joueur console?
PC.
Tu retiens quoi des annonces de l'E3 par rapport au PC, des trucs qui t'ont marqué, que tu vas suivre, ou des annonces au long terme que tu n'attendais pas particulièrement et qui t'ont fait plaisir?
Si on parle côté PC, le jeu que j'attends le plus maintenant, après cette E3, c'est Anthem, qui est le Destiny-like de BioWare. Il a été teasé à la conférence Electronic Arts et montré en détail quelques heures après à la conférence Xbox. Et ouais, comme je disais, la présentation, c'est un Destiny-like.
D'accord, donc c'est un titre que t'attends sur PC en particulier.
Ouais, parce que je suis amateur du genre, enfin amateur. J'ai passé beaucoup de temps sur The Division, je joue de temps en temps à Diablo, donc les jeux où il y a du loot, ça m'occupe.
Je sais que t'es un fan des achievements aussi.
Alors ça, j'ai arrêté.
C'est vrai.
Ça, j'ai arrêté parce que ma vie sociale s'en ressentait. Donc c'est fini, c'est les achievements.
Plus moyen de plier les jeux à 100%. Qu'est-ce qu'il y a d'autre au niveau de l'actu PC dans ce qui a été annoncé à l'E3 qui t'a donné envie? D'accord. C'est à ce point-là.
Écoute, non, PC, je jouerai à Far Cry 5 parce que dégommer de Light Right, c'est rigolo.
Ouais, enfin ça pour le coup, c'était déjà annoncé avant, donc on peut pas vraiment même pas parler d'une annonce E3.
Ils ont montré du gameplay.
C'est vrai, c'était bien.
Ils ont montré du gameplay, c'était bien. J'étais déçu parce qu'à la conférence Ubisoft, il n'y avait pas Aisha Tyler cette année.
C'est vrai, on sait pourquoi d'ailleurs.
Je sais pas.
Il faudrait qu'on se rencarde.
Je me suis pas renseigné plus que ça. Écoute, comme il y avait Miyamoto qui était là et Yves Guillemot, je me suis dit que elle aurait vachement détonné au milieu des deux. Après, je me suis dit, c'est comme sur son Twitter, elle est très anti-Trump et Far Cry, t'imagines.
Ça aurait peut-être été too much.
Aisha Tyler qui présente Far Cry.
tu veux dire qu'on a voulu ménager la sensibilité du public?
Peut-être.
Peut-être. C'est tout au niveau du PC qui... Parce que si on en remonte à Far Cry, on peut vraiment pas parler d'une annonce E3 comme je disais. Donc vraiment, cette E3... Enfin, moi, je t'avoue, je l'ai pas suivi du tout, donc j'ai vu comme d'hab beaucoup de sites de jeux vidéo faire leur lait toutes les infos et toutes les annonces. J'avais pas l'impression qu'il y avait moins d'annonces que les années précédentes, mais
écoute, je regarde mes notes niveau PC. Enfin, t'as toute la conférence Xbox, tu peux la prendre comme une conférence PC. Tous les jeux qui sont mis en exclu maintenant, on sait que ils sortent sur Windows 10. T'as les traditionnels, t'as Assassin's Creed Origins qui revient. C'est un peu le renouveau, ce Assassin's Creed Origins. On en parlait sur le forum, c'est notre Madeleine de Proust. Ça se passe en Égypte. Les premiers Assassin's Creed se passaient en Mésopotamie, si je me trompe pas.
Alors je t'avoue que je suis pas du tout fan de la série, donc j'ai assez vite lâché l'affaire.
Mais bon, tu reviens dans des contrées un peu connues. Ça change de Londres, ça change de la Révolution française, des Indiens d'Amérique.
Ouais. Donc apparemment là, un setting qui te parle et qui te donnera probablement envie d'y jouer.
Alors je n'irai pas jusque là. On a vu des vidéos de gameplay.
Ça t'a suffi.
c'est les mêmes, quoi.
Qu'est-ce qui te déçoit, du coup, dans ce 3? Tu trouves que c'est, enfin, moi, j'ai eu le sentiment, en tout cas, en matant la Confubie, d'avoir un peu la même chose tout le temps, et surtout avec, encore une fois, beaucoup d'annonces trailer, donc, avec zéro gameplay, des trucs qui ont été produits dans le moteur de jeu et qui se sont présentés comme des éléments de gameplay alors qu'il n'y a pas de gameplay intégré. Du coup, je sais pas, j'attendais de voir des choses peut-être un peu plus concrètes dans ce que j'ai vu chez Ubi. Rien de surprenant, quoi, finalement.
Je suis pas d'accord avec toi.
C'est vrai.
J'ai l'impression que dans cette E3, il y a eu énormément de gameplay. Electronic Arts a construit son stand entier sur une zone réservée aux joueurs, aux streamers, aux youtubeurs, qui pouvaient retransmettre derrière. Donc là, du gameplay, il y en avait eu pas mal. Ils ont retransmis après sur Twitch beaucoup de gameplay, des jeux comme A Way Out, qui était resté un peu au stade mi-trailer, mi-gameplay dans la conférence. On a eu derrière une vraie séquence de gameplay.
C'est vrai que maintenant que tu le dis, quand j'ai maté la conf Ubisoft, à la fin, ils ont effectivement présenté, je crois, une heure de gameplay d'Assassin's Creed.
Ouais, tu avais une heure de gameplay chez Ubisoft. La conférence Sony était particulière cette année. C'était 99% de trailers. Je dirais 1% de bullshit seulement. Mais tu vois, ils ont commencé la conf. Trailer. T'as une personne qui est arrivée à un moment juste pour dire comment la nouvelle PlayStation Pro était vachement plus mieux que l'ancienne. Et ouais, hop, classique. On a enchaîné sur pratiquement 30 minutes de gameplay sans interruption. 30 minutes de trailer, pardon, sans interruption.
Ouais, donc moi c'est un peu ce qui m'embête dans ces confs, hein, c'est pour ça que je les regarde quasiment plus jamais, c'est que c'est beaucoup de bullshit. Et finalement, peu de trucs concrets à se mettre sous la dent, et en même temps ça reflète un peu tout ce qui est marketing autour du jeu vidéo. Quand on va sur Steam, sur les titres AAA, c'est quand même assez rare d'avoir des vidéos de gameplay, on a plus souvent des vidéos de choses rendues dans le moteur du jeu, mais pas vraiment de gameplay. Et je trouve ça un peu dommage que voilà, ça continue manifestement à être l'angle de communication de cette E3, donc c'est pas un salon pour moi. Clairement, toi, ça t'a déçu aussi cette année?
Ouais, ça m'a déçu. Alors, si on regarde en plus côté marché, une des grosses déceptions, ça semble être la réalité virtuelle.
Ouais.
Et Sony a misé énormément l'année dernière sur le casque de VR. Ils ont montré des jeux, mais ça n'excite personne.
Ouais, mais j'ai l'impression qu'ils continuent à essayer de forcer le truc un peu. Il y avait beaucoup de présentations VR quand même. Il y a toute une série de jeux justement chez Sony, je crois, qui ont été présentés en VR. Il y a le truc avec Elijah Wood, le espèce de truc d'enquête. Là, si j'ai bien compris, ouais. C'est aussi de la VR. Ouais.
Chez Sony, ils ont un studio sur ça. D'ailleurs, studio, ce qui me semble, a fermé il n'y a pas longtemps. Regarde, un des jeux les plus emblématiques de la console, c'est le Final Fantasy en VR. Et qu'est-ce que c'est? C'est un simulateur de pêche.
Super. Cela dit, je vais me taire parce que je joue à Euro Truck Simulator 2, donc je ne peux pas me moquer des gens qui aiment faire des simulateurs de pêche.
Je joue à Elite Dangerous. je conduis mon truck dans l'espace, monsieur.
Tu vas te faire des amis. Bon, ben donc, on a fait le point de cet E3, hein, un point quand même relativement mitigé. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord, hein, si vous avez des choses à faire valoir, si vous trouvez qu'il y a eu des annonces vraiment importantes, bah on sera content d'en discuter avec vous. On va rester dans le gaming. Ouais, tu voulais dire un truc?
Il y a quand même une annonce qui a excité beaucoup de monde sur le forum, c'est Beyond Good and Evil 2. Pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, on est 100% dans le trailer. Il y avait zéro gameplay.
Mais si j'ai bien compris, le développement n'a pas commencé en plus, donc c'est vraiment plus genre ils ont signé le truc et il y a eu une annonce de fait, mais il n'y a encore rien qui a commencé derrière.
Écoute, il y a eu 10 minutes d'interview de Michel Ancel après, et sur les écrans on pouvait voir des petites séquences de gameplay a priori. Donc apparemment il y a des choses qui se passent. Alors ça excite les gens parce que ça fait 15 ans qu'on en parle et 15 ans que les gens attendent la suite. Mais bon, voilà, comme quoi il n'y avait pas que des mauvaises choses, il suffit d'un bon trailer.
Voilà, donc bah, si vous voulez venir en discuter avec nous, ça se passera dans le forum à la suite de ce podcast, ou bien sinon vous allez directement dans le forum, enfin le thread E3 dans le forum. C'est un thread que tu lances chaque année. On t'en remercie d'ailleurs parce que tu fais tout le taf que nous on n'a pas envie de faire, aller recenser toutes les annonces et toutes les conférences et toutes les vidéos, alors que mes chats essaient de s'exprimer, donc j'ai renoncé à l'idée de les faire taire. On va considérer qu'ils font partie du décor. Donc bref, voilà, merci Franck pour ce petit point sur le 3. Je t'invite à rester avec moi pour la suite des actus. Si tu as envie de réagir un moment ou l'autre, n'hésite pas. On va commencer avec le Humble Bundle Trove. Alors j'ai fait l'annonce hier sur Geekzone et c'est un peu nébuleux quand même comme annonce, parce que au départ moi je pensais que c'était un nouveau système d'abonnement à $12 par mois qui permettait d'avoir accès de manière récurrente donc à un catalogue de jeux sélectionnés. A priori là pour le moment il y en a 10, 2019, ce serait que des jeux indés un peu méconnus, et puis toutes les productions originals de Humble Bundle. Et toi, tu me disais que tu avais essayé tout à l'heure, et qu'a priori, il n'y a pas moyen de s'abonner sans avoir déjà le monthly, c'est ça, le Humble Bundle monthly, qui est le truc un peu loot mystérieux du mois, avec des jeux mystères pour 12$, justement.
C'est ça, moi j'ai un abonnement Humble Bundle monthly, et effectivement, quand j'ai essayé de le faire en mode déconnecté, et de prendre l'abonnement juste pour Trove, j'ai pas réussi. Tu arrives directement sur la page d'abonnement pour te faire souscrire le monthly. Donc moi je le vois plus comme un cadeau bonus avec des petits jeux qui payent pas de mine, qui sont sympathiques et qui vont passer le temps si t'as déjà joué à tout le reste.
Ouais, donc un petit bonus pour les abonnés au monthly.
Je le vois comme ça, effectivement.
Ouais, et c'est donc de nouveau des jeux sans DRM, donc vous pouvez les télécharger, les installer sans qu'on vous casse les couilles. On va switcher du côté des apps. Je voulais vous parler de Dopamine, qui est un lecteur pas tout récent, qui a quelques années déjà, mais qui continue d'être développé, que je ne connaissais pas, que j'ai découvert pour Windows. Donc c'est un petit lecteur qui est développé en Belgique par un monsieur qui s'appelle Raphaël Godard, et en gros bah voilà, c'est un lecteur, il révolutionne pas le genre, il lui manque quelques trucs, notamment du côté de la gestion des tags E3. Les gens qui ont l'habitude de faire ça via MusicBee ou d'autres softs comme IMP vont se sentir peut-être un petit peu pénalisés, mais globalement c'est une entreprise intéressante, c'est un soft à suivre parce qu'il est plutôt joli, il fonctionne assez bien, je l'ai testé pendant plusieurs jours là pour voir un peu comment ça tournait. C'est très propre, ça s'intègre relativement bien dans l'environnement Windows 10. Ça remplacera pas MusicBee pour une utilisation quotidienne, mais si vous êtes en quête d'un nouveau lecteur audio pour Windows et que vous cherchez un peu de la nouveauté, des trucs un peu léchés au niveau du design, allez faire un tour sur la page Dopamine, récupérez le lecteur et testez-le, c'est tout ce que je peux vous conseiller. On va continuer dans les apps avec Ulterius. Alors le nom est un peu malheureux, on va dire. C'est un soft en fait qui permet de faire du remote desktop, toujours sur Windows, donc via votre browser. Alors on sait qu'aujourd'hui le remote desktop dans Windows, il est plutôt bien intégré, il est facile d'emploi. Là, ils ont décidé d'aller plus vers le côté assistance, en fait, en proposant donc d'entrée de jeu dans des pages spécifiques, des onglets spécifiques, toute une série d'informations système sur qu'est-ce qu'il y a dans la machine, quels sont les process qui tournent, etc. Tout ça sans faire de remote directement. Et puis, bien sûr, donc un screen share pour aller voir sur l'écran, prendre le contrôle et éventuellement faire des bidouilles pour sauver l'ordinateur infecté de spyware de votre oncle ou votre grand-mère ou que sais-je. C'est pas un truc qui va concurrencer les aficionados de TeamViewer ou du remote desktop intégré à Windows, mais je voulais en parler parce que je trouve le soft plutôt pratique. Il s'installe en ouvrant lui-même les ports comme un grand sur toutes les boxes qui permettent de faire de l'UPnP, donc il y a vraiment aucun setup à faire. Il suffit d'installer un petit client, enfin un petit serveur pour le coup, du côté de la machine de la personne qu'on veut prendre en remote, et pour le reste, bah ça fonctionne tout seul. On va dans le browser, on se connecte et le soft fait le reste. Toi, tu l'as essayé, t'avais des trucs à dire.
Moi, jusqu'à présent, j'utilisais Chrome Remote Desktop, tout simplement parce que depuis le Mac du bureau, je pouvais accéder au Windows de la maison et avoir partage de la carte son. C'est toujours pratique. Et puis surtout, pas un soft à installer sur sa machine du boulot, c'est cool. Du coup, là, j'ai pas essayé beaucoup. Je l'ai installé sur le Windows à la maison. J'ai pas réussi, moi, à me connecter depuis le bureau. J'ai l'impression qu'il faut quand même faire du port forwarding si on le fait dans ce sens-là.
Ouais, du côté entreprise, à mon avis, il y a peut-être des firewalls qui font que ça marche pas.
Entreprise, en sortie pour accéder à mon PC à la maison. Là, je pense que l'UPnP dans ce sens-là ne marche pas. Donc, bon, pour l'instant, je reste sur Chrome, mais je vais suivre ça. Puis le mec qui est derrière, c'est quand même un génie, quoi. C'est le mec qui a fait Borderless Gaming. Il a fait Steam Cleaner.
D'accord, ok, ça je connaissais.
Le truc que t'as posté, toi. Il a fait Netflix Roulette.
Ok, donc en fait, il a alimenté la moitié de mes news depuis 4 ans et je ne le savais pas. D'accord, mais comme quoi, tu vois, ça vaut la peine de creuser parfois. Donc, Andrew Sampson, c'est le développeur, on en avait parlé. Ça je m'en souviens quand il s'agissait d'Horus. Le truc qui a périclité, malheureusement, ou heureusement. Mais pour le coup, donc apparemment, il est très très actif, le monsieur. Donc ben voilà, un bonhomme à suivre si vous voulez avoir des petits softs utiles sous la main pour Windows en tout cas. Du coup, bah ici, je pense que j'ai fait le tour pour Ulterius. Essayez-le, faites un test, voyez si ça vous convient. Mais pour moi, il y a une grosse limitation encore pour le moment, c'est que ça transfère pas le son et je trouve ça un peu dommage. Mais sinon, dehors de ça, ça fonctionne relativement out of the box, comme on dit.
Ça va venir le son.
Oui, ça va venir. Deux petites annonces culture pour terminer. La première, c'est pour vous rappeler rappeler que c'est Matt Le Fou qui a repris la rubrique Vendredisc, puisque moi j'avais décidé de ranger un peu les vinyles. Donc voilà, il la reprend tous les vendredis. Il y aura donc des Vendredisques avec une orientation musicale peut-être un petit peu différente de la mienne, mais pas pour le coup, pas inintéressante du tout. Donc voilà, tous les vendredis, Matt Le Fou reprend les Vendredisques. Et puis je voulais terminer par une petite info sur Marvel Studios, puisque Kevin Feige, le big boss du studio, était de passage à Paris. Alors, on n'a pas eu la chance de pouvoir l'interviewer, mais on a quand même pu récolter les infos qu'il a transmises, et je voulais faire globalement un survol des choses importantes qu'il a mises au point, notamment concernant les droits pour les Fantastic Four. Pour le moment, il n'y a aucun projet au sujet des quatre Fantastiques et d'un éventuel retour dans le MCU. Kevin Feige ajoute même qu'il n'y a aucune discussion en cours, donc voilà, ça calmera un peu les ardeurs de tous les fans qui spéculaient sur leur sujet. Une autre info importante, et plutôt un démenti pour le coup important, donc aucun plan, on sait qu'il y a un film Venom qui vient d'être annoncé avec Tom Hardy, pour le moment aucun plan de l'intégrer dans le MCU, donc c'est vraiment un projet Sony à 100%. Alors à moins qu'il nous cache quelque chose, ça semble donc confirmer que Sony continue de faire n'importe quoi avec les comics Marvel, ce qui n'est pas particulièrement rassurant. Pour le reste, il confirme que Infinity War sera bien le point culminant du MCU et qu'il va y avoir de gros changements. Il confirme qu'il y aura effectivement plein de personnages, mais peut-être pas 69 comme on l'a dit. Il y aura peut-être 69 personnages, mais en tout cas pas sans trop, ça c'est certain. Donc il coûtera pas non plus $1 milliard comme on a pu le lire ici et là. Et puis en gros, il a donné quelques autres petits biscuits sur le MCU et son avenir. Je ferai un petit récap, tiens, demain, de tout ce qu'il a dit. Je suis sûr que ça peut intéresser les gens qui suivent l'actualité Marvel Studios, et comme ça je saoulerai pas ceux qui sont restés avec nous jusqu'à la fin de ce podcast. Franck, merci pour être venu nous parler de l'E3.
Merci pour l'invite.
Et puis on retrouve CAF la semaine prochaine, donc avec du matos et des news tech qui vous ont sans doute manqué depuis ces 15 derniers jours.
Et un coup de soleil.
Et un coup de soleil aussi probablement. Salut.
Bye bye.
C'est le chat qui a décidé de communiquer.
Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
Est-ce qu'un jour on remplacera nos repas par de la poudre ? Qu'est-ce qu'il se passe dans nos têtes quand on rêve ? Partir en vacances sur une exoplanète, c'est pour bientôt ? Les réponses à ces questions et bien d'autres, c'est dans Ramène ta science, le nouveau podcast scientifique de Geekzone. Avec Dr Saucisse, l'ami Bini et Faskill aux commandes, on vous parle de sujets peu connus, de sujets mal connus ou de sujets qui trimballent leur lot d'idées reçues en décryptant leur impact sur notre quotidien. Ramène ta science, RTS, c'est votre nouveau rendez-vous scientifique et c'est sur geekzone.fr.